suis une fois de trop. Et ils seront fous, fous, nous deviendrons loups. Notre lait deviendra du fait. Nous deviendrons loups d'une nuit de lune et d'enfer. Nous deviendrons loups, faites saigner le pur nous, faites chauffer le ragoût.
De ce ragoût surgiront des loups et de ce ragoût surgira. On est là pour ça. On est là pour ça ce soir. Avec Isabelle.
Bonjour.
Avec Ben.
Bonjour.
Et avec Nikki.
Bonsoir.
Et moi, Hélène, à la technique, et oui. Et ce soir, on vous parlera de cinéma, on vous parlera de petits livres, un petit peu d'exposition si on a le temps. Et nouveauté, Nikki nous parlera de hip-hop. Isn't it? On est là pour ça, l'émission de jeunes. Bon, il y a déjà une émission de hip-hop sur Radio Pulsar, mais comme nous, on parle de ce qu'on veut, on est là pour ça, on va parler de hip-hop. Et en attendant, on va écouter autre chose que du hip-hop. Si ça veut... Ben, c'est moi la technique.
Thank you.
Et donc, ça, c'était un disque sélectionné par Ben. Encore un truc intello.
Oh la vache. Mais non, c'était pour poursuivre dans ma lignée musique et cinéma que j'avais commencé à entamer, rappelez-vous, avec Arca qui reprenait le morceau de musique, puni sur celle qui faisait des bandes sons imaginaires. Et là, du coup, c'est Cinematic Orchestra. J'ai encore dit du coup, hein. Je pense que vous pouvez me gueuler dessus.
Si on va compter les du coup, voilà. Et les auditeurs de Pulsar peuvent appeler s'ils trouvent qu'il y en a trop.
Il y en a trop dans ce que je dis. Cinematic Orchestra qui a décidé, il y a quelques années, de refaire une bande-son sur le chef-d'œuvre de Diga Vertov, L'homme à la caméra, donc de 1929.
Tout à fait, c'est ce qui a marqué sur le CD.
Oui, donc ça doit être pas mal. Qui ont décidé de faire ça, notamment pour le refaire en ciné-concert. Qui se sont donc enfouis dans un studio avec le film pendant pas mal de temps et voir ce que la composition contemporaine pouvait se calquer sur ce film, expérience formelle très importante et que du coup ils ont décidé de se réapproprier. Donc voilà, un très très bon album sorti chez Ninja Tune et qui enchaîne. Les morceaux, comme c'est une bande-son de film, voilà, c'est un CD à écouter presque à la suite, en une heure et quelques, voilà.
Et là, on a en fait écouté les trois premiers morceaux, voilà. Qui s'enchaînaient effectivement très bien.
Très bien, voilà.
Donc tout de suite après, reprenons notre rubrique Petit Livre avec aujourd'hui, je vous sors mes petits livres de Derrière les Fagots, des petits livres un peu snob, comme on disait un petit peu avant l'émission, excusez-moi, je vais donc vous montrer ici des petits livres que vous ne trouverez pas en commerce, vous ne fréquentez pas d'artistes, pas de chance. Ouais. Non mais vraiment, je sais, c'est contraire à notre déontologie qui fait qu'on a envie de parler des choses qu'on peut se procurer. Mais là, ça peut inciter Monsieur Ramon Aguilera Cueco à transmettre encore plus les petits livres qu'il fait lui-même sur son imprimante, eh bien, ce serait une bonne chose. Puisque j'avais envie de parler, comme ça, des petits livres qu'il a fabriqués. Donc Ramon Aguilera Cueco, présentons-le. C'est un artiste qui a maintenant un certain âge. Il était très actif dans les années 68. Enfin, il continue à l'être. Et c'est le frère d'un peintre qui s'appelle Henri Cueco, qui est plus connu du grand public. Et Ramon, lui, a fait beaucoup de, pas mal d'affiches, beaucoup de d'art, comment dire, d'expressions qui interrogent à la fois la mémoire et l'expression populaire, et voilà, il a un certain sens social et politique. Et il a fait depuis quelques années des petits livres avec son ordinateur et son imprimante. Qui sont des feuilles pliées en quatre et découpées ensuite, imprimées sur du très beau papier, où il s'amuse beaucoup avec les typos, comme il a été affichiste et aussi peintre d'enseigne. Il connaît très bien les règles typographiques, s'amuse beaucoup avec. Et là, j'en ai un dans les mains que j'aime beaucoup, qui s'appelle Code Barre, signé de Ramon. Et donc je vais vous lire un extrait pour que vous en compreniez la teneur, puisque c'est aussi une petite fable, comme une petite nouvelle, que ne dénigrerait pas, je pense, GB dans ses reportages, pas vraiment raté, qu'a pu lire Thomas la semaine dernière et celle d'avant. Donc, petite lecture de Code Barre, de Ramon Aguilera Cueco. Alors, il y a un code barre en tête. Je ne vous lirai pas les chiffres. Aux caisses, le client précédent se vit gratifié de l'éternel. Au revoir, bonne journée. Suivi immédiatement pour moi du « Bonjour, monsieur ». Je répondis « Bonsoir, madame », puisque la nuit était déjà tombée. Il fait déjà nuit dehors, alors zzz, zzz. Alors, je vous fais des zzz, zzz, aparté pour signaler un code barre imprimé graphiquement sur le livre. D'où le titre. Je suis désolée, ça se traduit très mal en radio, je suis obligée de faire quelque chose comme zzz, zzz, et vous comprendrez. Hein.
Blip blip, sinon.
Blip blip. Ah, c'est pas mal, blip blip. D'accord, je vais faire blip blip. Quelques jours plus tard, au bonjour, blip blip, m'étant passablement enhardi, je me hasardais à répondre, bravant le ridicule, un blip blip blip, madame, avec la voix bien ferme. Cela provoqua chez elle un certain étonnement, car rares sont les clients qui acceptent de faire l'effort de parler en code barre. Elle se mit à parler tout naturellement, des confidences en grande importance. « J'ai Blip Blip, petite fille, qui est contente. Blip Blip, son père l'amène au magasin. Elle est fière de me voir à la Blip Blip, de voir que nous ne sommes pas très nombreuses à Blip 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 ce métier. Et puis, tout le Blip Blip nous regarde, non ? Je pense sincèrement que tout le monde ne Blip Blip pas les caissières. » Mais regarde le chariot et son contenu. Un jour, suite à une erreur, on m'avait compté un beefsteak à blip blip francs. Bif pour une personne. « Vous êtes sûr du blip blip ?» me demanda-t-elle. « Oui, à quelques blip 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 près. » Elle demanda à une volante d'aller blip blip blip. Était-ce pour continuer la conversation ? Autrefois, je voulais être blip blip blip. J'ai fait du théâtre au blip blip. J'aimais bien sûr être sur blip blip. Ici, on nous apprend un rôle. Je suis dans le blip-blip de la caisse blip. J'écoute les bavardages des clients, des blip-blip-blip qui flirtent aux caisses. Je dois prévenir les vols, blip-blip, être courtoise. Je suis une hôtesse qui s'adresse à plein de catégories blip-blip différentes. Visage fin, lunettes bien choisies, qui auraient pu lui faire attribuer une toute autre profession. Elle n'avait rien à voir avec celle de la semaine précédente, qui m'avait dit à ma grande surprise « Ils font chier avec leur blip-blip toute la journée, leur département à trouver, leur livre à blip-blip caché dans les rayons. C'est con, il en avait mis à envelopper dans du plastique sous la blip-blip du poisson. On pourrait avoir un peu le blip-blip de la nourriture, non ?» Je dis « Blip-blip. » On est en plein dans les courants d'air. Vous ne sentez pas le vent ? On supporte bien la petite laine sous les tabliers qu'il nous oblige à porter. Allez, blip-blip et blip journée. À vous aussi. Bon, je vous lis pas toute la fin parce que je sens que vous allez être fatigué par les bruits de côte-barre. Mais c'est une très belle petite nouvelle qui se termine blip-blip bien. En côte-barre. Et si j'ai eu envie de ressortir ces petits livres de Ramón Aguilera Cueco, c'est que je suis tombée complètement par hasard sur un catalogue d'exposition. Parce qu'il faut savoir que Ramón a fait assez peu de livres, je crois, édités par des maisons d'édition. Beaucoup de livres d'artistes et de catalogues. Et là, c'est la galerie du CAUE à Limoges qui a édité ce livre-là. Il n'y a pas vraiment de titre, c'est un catalogue d'exposition. Il explique en préface que le directeur de la galerie a envie de laisser aux artistes le soin de s'exprimer dans des petits catalogues en petit format. On est bien dans un petit livre. Format carte postale à l'italienne. Et donc là, en couverture, on voit une photo d'huître en gros plan, mais vraiment en gros plan, c'est très, très glaireux, on pourrait dire, sous-daté huître, 25 décembre 2005 à 20h30. Ce qui confère tout de suite à la photographie quelque chose d'un suspense un peu...
Que va-t-il lui arriver ?
Que va-t-il advenir à cette truite ?
Et oui, et tout Ramón Aguilera Cueco, là, non pas tout, mais on sent qu'il y a chez lui donc, cette sensibilité à la mémoire et un peu à l'histoire, et en même temps, il aime bien rigoler, et à la photographie. Il se trouve qu'il est, je pense, exposé à la galerie du CAU, parce que je n'ai pas vu l'expo, je pense que c'était un peu l'objet de l'exposition, des photos. Donc il faut savoir que ce monsieur qui est affichiste, qui a beaucoup travaillé la sérigraphie, qui fait des petits livres, qui fait des choses en typographie, photographie aussi beaucoup. Et qu'en plus, quand il photographie, c'est un peu un ouvrier, il vient un peu aussi du monde paysan, il aime bien savoir comment se font les choses, il aime bien les faire lui-même. Il a construit pas mal d'appareils photo. Comme on sait, c'est pas très difficile de construire un appareil photo, c'est une boîte noire avec un trou, un papier photosensible dans le fond. C'est une caisse noire, mais c'est un appareil photo, quoi. Et donc Ramón a construit quelques appareils plus ou moins sophistiqués. Et évidemment, quand est venu l'ère du numérique, il a un peu sauté dessus. Puisque c'était... Il a pas fait le vieux schnock qui va dire c'est quoi cette technique dégueulasse. Non, pas du tout. Il aime bien, ça l'amuse. Donc il s'est emparé du numérique. Et il a pris plein de photos. Et il s'est aussi un peu interrogé, comme beaucoup de gens, je pense, s'interrogent maintenant, avec la fermeture des photographes, etc., sur qu'est-ce que ça change le numérique. Qu'est-ce que ça change dans le rapport à la photo, le fait qu'on ne soit plus dans le viseur, qu'on prenne à bout de bras, qu'on prenne à la volée, qu'on en prenne plein, qu'on sache plus les conserver, ou que peut-être dans 20 ans, il n'y en aura plus des photos numériques, parce qu'est-ce qu'on saura lire un format JPEG dans 20 ans? On ne sait pas. Donc il a fait un petit catalogue qui s'appelle En vrac, quelques photographies, et juste avant, un long texte pour expliquer, lui, sa vision de la photographie, de la lumière, qui est très beau. Bon, j'ai déjà fait une lecture, alors je ne vais pas lire ce texte-là, mais vraiment, c'est pas mal du tout sur la réflexion qu'on peut avoir quand on prend des photos, quand on en prend d'une façon, comme lui, un peu compulsive et énorme, et qu'ensuite on essaie de les classer, et qu'on se demande pourquoi on les prend, est-ce que c'est vraiment pour le souvenir, est-ce que c'est pour la prise de vue, est-ce que c'est pour le hors-champ, et comment ça change la prise de vue et le hors-champ quand on est en numérique ou en argentique, quand le déclencheur est plus ou moins lent, etc., quand il y a du flou, qu'on les garde ou qu'on les garde pas. Bref, voilà, une réflexion sur la photographie à travers quelques clichés alignés comme ça, notamment, et là c'est presque deux saisons, un cliché d'une affiche très connue en 1968 où on voit le CRS avec les travailleurs paysans ouvriers en dessous. C'est donc une vieille photo argentique, hein, prise à l'époque. Et puis deux pages plus loin, la publicité d'un grand supermarché dont on ne citera pas le nom, qu'il a détourné ineusement avec un blip-blip. Et oui, voilà quelques petits exemples, mais il y en a bien d'autres dans ce livre de Ramón Aguilera Cueco, que je vous encourage à lire si par hasard vous le trouvez. Sinon, vous pouvez appeler la galerie du CAUE à Limoges, parce que c'est des livres qu'on ne trouve pas souvent, mais qui valent le détour. Voilà donc. Et ensuite... c'est toujours Hélène à la technique qui n'a pas calé la prochaine musique qu'on va écouter.
Blip blip.
Blip blip.
Blip blip. Blip blip.
Nous sommes sur Pulsar.
On est là pour ça.
time you live it, where you go, and harder than ever been before. And people are drifting door to door, can't find no heaven, I don't care where they go. So that money, you better be sure, and these hard times will drive you from door to door.
C'est plus dur.
C'est pas facile.
On aurait dû ramener des instruments. Alors c'était Hard Time Killing Floor Blues. Ça crache comme nom.
Pas mal.
Et voilà, qui avait été fait par, qui avait été repris dans une super belle version par également par Skip James, si je me souviens bien, qui était un des grands monsieur qui a repris cette ce grand standard de blues, qui est extrait de la
bande
originale de Obrover des frères Cohen. Et non, ce n'est pas une mot interdit pour parler du dernier film des frères Cohen, No Country for Old Men, que like we said in English.
Et like we said in French.
Non, ce pays n'est pas pour les vieux. Les hommes vieux.
Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme.
Pour les vrais. Alors, ils traduisent en singulier ?
Je sais pas, moi j'avais vu une traduction du roman de McCarthy, Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme.
D'accord.
Je Alors après, pour le film, je ne sais
oui,
pas.
Oui, c'est au pluriel.
C'est au pluriel.
Pour les vieux hommes.
Oui, pour les vieux hommes.
Ah, ça fait un peu moins heureux tout de suite.
Ah oui, parce que du coup, ça généralise un peu la chose.
Ah oui, c'est un peu catégorique. Mais alors, ça parle vraiment de quoi, ce film que vous avez vu ?
Eh bien, le monde n'est pas fait pour les vieux.
Vraiment ?
C'est évident. Oui.
En avant jeunesse, comme dirait l'autre.
Comme dirait l'autre. Peut-être en cinéma à Poitiers, le passé d'ailleurs, l'autre. Enfin bref. Non, No Country for Old Men des frères Cohen que nous avions la chance de voir dans le merveilleux cinéma, le Blip Blip. Qui passe quand même des films en VO et qui ne passe pas ailleurs, donc on va pas brûler leur salle. Mais un film magistral, comme on dit. Je sais pas, merveilleux, non, c'est pas le terme.
Ça vous a plu ?
Oui, surtout qu'en plus les frères Cohen quand même nous ont fait, excusez-moi du peu, de films absolument ridiculement inutiles.
Alors,
qui était en l'occurrence Lady Killers avec Tom Hanks, qui était soigneusement. Vous l'avez pas vu ?
Non.
C'est bien, vous avez gagné 2 heures. Et Intolérable cruauté avec le merveilleux George Clooney et la demoiselle je ne sais plus comment, qui était pareil, complètement inutile et intolérable d'ailleurs, comme son nom l'indique. Alors qu'il nous avait habitués à des bons films comme la célèbre comédie Odd Brothers, dont est tiré le morceau que nous avions vu avant, ou le très, comment on dirait, loufoque baroque The Big Lebowski, qui était également très bien fait. Et puis avec quelques autres films qui ont resté célèbres, Fargo, quand même, tout le monde a vu Fargo, Miller's Crossing, qui était un très bon polar, qui se situait dans les années 50, et Barton Fink, qui avait la consécration, alors que c'était que leur deuxième film, si je ne m'abuse, juste après 100%. Et on a oublié un ou deux dans leur filmographie, mais on a cité les biens, donc c'est pas grave. Mais ils n'ont pas fait beaucoup de films. Et là, c'est le retour, c'est le miracle. Et en plus, la première chose qui est évidente quand on voit le film, c'est que c'est vachement moins drôle. Hein. C'est que quand même, un truc qui à chaque fois était pouvait tirer vers le second degré, pouvait tirer dans une certaine forme d'amusement. Là, c'est un thriller où quand c'est violent, c'est pas pour rire. C'est que ça fait très mal. Ça m'a rappelé d'ailleurs esthétiquement le. Qui pourtant n'aurait pas grand chose à voir, mais quand même pas mal. Les derniers films de Cronenberg sur le rapport à la violence, cette espèce de force qui est donnée à le rôle de la violence et du pouvoir forcément qui en est induit ou déduit. Et donc ça, c'est assez impressionnant et c'est vraiment la chose qui reste. Enfin, qui est évident pour le coup dans leur cinéma, c'est qu'ils ont vraiment, je sais pas, ils ont grandi. Ils ont, pour le coup, eux, ils ont vieilli, et dans le bon sens du terme, c'est qu'ils se sont posés, je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi à ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient en train de raconter du monde, je pense même en général. Et là, cette adaptation est incroyable, non seulement pour la mise en scène, et du coup, je vais faire l'abruti parce que j'ai pas lu le bouquin, mais il y a un excellent rapport aussi sur le passage des différents points de vue de narration qui est assez impressionnant, où il y a des glissements qui s'opèrent, notamment un qui est très important vers le milieu trois quarts du film, et tous ces glissements de points de vue en fait du coup on voit jamais la petite passation qu'on fait ou le petit jeu qu'on fait d'habitude de revoir la scène deux fois avec différents points de vue. Non, là, si vous n'avez pas vu un truc, vous ne l'aurez pas vu parce que lui, il ne l'a pas vu. Donc comme vous étiez avec lui à ce moment-là, vous ne le verrez pas. Oh merde, mais du coup, on ne comprend pas.
Et, donc on sait qu'on a raté des trucs et
c'est normal parce que c'est ça. C'est que du coup, tout
c'est
le...
C'est un peu ça que ça raconte, en fait.
Voilà.
C'est pas tellement de sujet. Enfin, s'il y a une question de génération, ça peut être peut-être lié au rôle du shérif, qui est en effet plutôt vieux et qui, à la fin, va...
Et qui a une tronche pas possible dans la personne de Tommy Lee Jones, quand même.
Ouais. Mais qui est un truc comme ça, quoi. Tout ce qu'il ne voit pas et qu'il fait, il est toujours en retard, quoi.
Sur
ce qui se passe. Et c'est un rôle de shérif un peu tragique parce que, à la fois, il sait ce qui se passe, il sait ce qui va même se passer. Enfin, voilà, il anticipe parce qu'en gros, l'histoire, c'est celle d'un serial killer qui est à la poursuite d'une autre personne. Et voilà, il peut imaginer la fin et il n'arrive pas à... Il le rattrape pas, quoi. Bien qu'il ait...
Il fait ce qu'il peut.
Bien qu'il ait à peu près les mêmes informations. Enfin, je veux dire, il part... Ce que je veux dire, c'est qu'il part pas forcément avec du retard, mais qu'il ne le rattrapera jamais durant le film. Et que nous, comme spectateurs, on est un peu dans la même situation. C'est-à-dire qu'on comprend des choses parfois tardivement.
C'est-à-dire qu'on n'est pas en trépignée sur son siège à dire mais quel con, mais non, mais vas-y.
Non.
On est autant à la ramasse.
Au contraire, on se fait balloter dans l'histoire et qui du coup, je l'ai dit, pardon.
Tu as dit du coup.
Ce qui est important.
Par conséquent.
Par conséquent, voilà, c'est bien par conséquent, je veux dire que par conséquent. Non, en fait, tout ce qui interroge ce film, c'est la question de la posture qui peut exister pour un individu par rapport aux autres et que du coup. Là, je suis obligé. Il le fait pour nous. Et comment on peut rattraper un événement, comment on peut le gérer, comment on peut à un moment faire le choix ou pas d'y arriver, qui c'est qu'on protège ou pas, comment on va intervenir sur quelqu'un, est-ce qu'on va y arriver. est-ce qu'on va pouvoir se positionner, etc., etc., etc. Et tout ça est interrogé à chaque fois pour plusieurs personnages. Et un choix de départ qui est la scène d'ouverture magnifique sur ces grands paysages de désert.
Américain,
merveilleux, le désert. Et où il y a une décision importante qui va être celle de prendre des pognons. Et on le sait que le mec forcément se barre avec une valise de pognon, ça va être le bordel quoi. Et lui, il le sait. Il le fait en toute conscience. Il se barre, il sait ce qui est en train de se passer, il sait qu'il va se faire poursuivre, il sait que ça va peut-être mal se finir, mais il y va et puis il essaye d'anticiper quelque chose. Le personnage du serial killer, il sait qu'il va le rattraper, il en est persuadé, du coup nous on est persuadé aussi, mais à chaque fois, quelle est la possibilité de latitude qui existe entre ces différents personnages pour ou pas y arriver ? Et du coup, c'est toute cette infinité de petites possibilités qui sont posées à chaque fois, quoi. Et ce qui fait que, on est forcément en retard par rapport au monde, quoi. Il y a un truc qui est... Mais l'énorme tour de passe-passe de génie qu'ils font, les frères Cohen, c'est qu'en faisant ça, ils ne se posent à jamais en tant que possible truc réactionnaire en disant « Oh là là, le monde va trop vite, oh là là, c'était mieux avant. » Pas du tout, il y a toujours quelque chose qui va désamorcer cette possible analyse du film ou cette posture en disant non, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut pas le faire, c'est pas parce que le monde était mieux avant, il y a plusieurs choses assez importantes qui expliquent que non, le monde n'était pas mieux avant, voilà. Mais c'est juste que, voilà, qu'est-ce qu'un individu par rapport à cette somme d'événements qui existent et cette infinité de possibles, et qu'on est toujours possible dans cette espèce de magma, et puis que faut trouver sa place, et puis qu'il y a des moments où on essaye, ça s'appelle courir après la vie, et puis au bout d'un moment, des fois on est fatigué, donc on s'arrête, on se pose un peu, voilà.
Et là on est vieux, on est foutu.
C'est que c'est pas forcément, finalement, je sais pas si c'est les vieux qui sont foutus. Voilà, et c'est pour... Et puis voilà, donc enfin, moi je trouve qu'ils ont réussi un truc très beau dans le thriller, un peu... là-dessus, sur un truc presque toujours se faire rattraper par un destin, parce qu'il y a quand même, c'est que des choix qui façonnent l'histoire, mais qu'à un moment, à force de se faire rattraper, qu'on essaye quand même. Et du coup, je trouve que c'est un bel élan, le film, justement, pour poser ça.
Et puis chaque fois, c'est un film vraiment de ce que tu dis, enfin, d'individu, quoi. Ils sont tous seuls, quoi. Celui qui a volé l'argent, celui qui veut le récupérer, le shérif qui est à sa poursuite, pas de groupe, quoi.
C'est vraiment des destins
particuliers. Et alors, le serial killer, il est quand même assez réussi dans son genre. Hein.
Ah ouais, Rabbi Bardem.
Ah ouais,
pardonnez mon accent espagnol pour les hispanophones. Il fait une prestation quand même incroyable, parce que moi je l'ai vu dans quelques films d'Almodovar notamment, mais là c'est une métamorphose et il fout vraiment le jeton. T'as vraiment l'impression de passer du temps.
Il a
avec...
un rapport aux autres complètement fou, parce que complètement, comment dire, arbitraire, quoi. Il décide à pile ou face la vie des gens qu'il rencontre, et tout, et ça met dans des états quand même un peu.
Et il a quand même quelques ustensiles très déplacés.
C'est assez original.
Voilà.
Comme
Donc on va pas révéler les ustensiles, je pense que.
Non, laissez-nous un peu de surprise.
Oui. Et les ustensiles sont tellement originaux que, voilà, on se pose la question même. Pourquoi il a choisi quelque chose comme ça qui n'est pas du tout pratique
Arrêtez, Nicky va faire des cauchemars.
Encore un film que je ne verrai pas.
C'est vraiment de la
ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à faire un vrai beau thriller qui reprend plein de clichés d'habitude de ce que c'est que le thriller et le western, etc. C'est le film de serial killer, mais sans jamais sombrer dans l'imposture réactionnaire, en faisant une structure narrative très bien construite, même s'il y a des facilités de scénario, ce qu'on veut, et puis il y a un travail de mise en scène et de direction d'acteur qui est incroyable, quoi. Et du coup c'est chapeau, quoi. C'est, voilà. Et il passe encore chez les Blip,
le
cinéma,
les frères Cohen.
Voilà.
Sinon un film qui parle de jeunes,
d'un petit garçon, mais pas seulement. Le voyage du ballon rouge, donc de ça y est, je vais pas pouvoir le dire. Ouxiaoxian.
Excusez les pour les gens qui parlent
Ouxiaoxian. Ouais, Ouxiaoxian, c'est mieux. Voilà. Et donc Le Voyage du Ballon Rouge, c'est un très beau film aussi. Juste pour dire, moi je vais raconter un peu l'histoire.
Pas trop Isabelle, pas trop.
Pas trop, mais un peu quand même. Juste le début de l'histoire, c'est une babysitter donc, d'origine chinoise qui débarque à Paris et qui va donc s'occuper d'un petit garçon qui vit seul avec sa mère. Ce qui va être très important dans le film et qui fait vraiment une des particularités et une des choses vraiment réussies du film, c'est que cette jeune babysitter est aussi apprentie cinéaste. Et que peu à peu, on va s'apercevoir que dans le film de Wu Xiaoxian cohabite son film, enfin voilà, le film qu'on est en train de voir, mais qu'à l'intérieur, il insère le film en train de se faire de cette jeune cinéaste. Et qu'au début, en fait, c'est les premières images qu'on voit, ben on ne le sait pas quoi. Donc ça crée une espèce de... Oui, de mystère, de pas trop savoir ce que c'est que cet autre objet, enfin, dans le film. Et voilà, et petit à petit, on se rend compte que ben, c'est son métier. Et un autre truc assez intéressant dans les métiers, c'est que donc elle est apprentie cinéaste. La mère du petit garçon, elle fait les voix d'un spectacle de marionnettes. Donc il y a tout un univers comme ça autour de la, ben, à la fois de la création et de la représentation. Et au fur et à mesure du film, c'est un truc qui va se multiplier parce que donc il y a à la fois plusieurs films dans le film, plusieurs spectacles entre guillemets en train d'être créés, et il y a plein d'images différentes aussi du coup. Enfin, et aussi il utilise beaucoup des reflets. Enfin, il y a une espèce de petit à petit de multiplication comme ça de
des représentations.
Des représentations. Et c'est vraiment il y a plein de moments très, très, très beaux. Moi, je trouve que c'est un assez beau portrait aussi de ce que ça peut être un cinéaste, en la personne de cette jeune cinéaste, parce qu'il se trouve que la mère du petit garçon, c'est plutôt quelqu'un d'assez agité, qui a une vie un peu... Voilà, quelqu'un de vraiment de pas tranquille, quoi. Et Juliette Binoche, elle est assez fantastique. À part quand elle exerce son métier, en fait. C'est le seul moment où elle arrive à se poser et à faire les choses. Sinon, elle est complètement
débordée,
enfin dans un espèce de désordre, enfin à la fois dans sa maison, dans sa vie. Elle n'arrive pas à se poser. Elle est toujours énervée et tout.
Pas trop hystérique quand même.
Non, c'est un truc très justement qui est bien parce que c'est juste ce qu'il faut quoi. C'est tout à fait
tendu.
Tendu possible. Mmh. Et en même temps, elle arrive à se reprendre pour s'occuper de son petit garçon par moment. Et ce que je voulais dire sur le personnage de la cinéaste, c'est que c'est une sorte de portrait de cinéaste, parce qu'elle, elle est plutôt... Alors, d'un cinéaste possible, hein, c'est pas pour dire que tous sont comme ça, mais elle est plutôt dans une position d'observation, de calme, d'être assis, de travailler à son ordinateur, de regarder un peu ce qui l'entoure, d'imaginer des scènes que finalement on verra plus tard. Et c'est assez bien. Et dans l'autre registre de représentation, il y a des souvenirs aussi qui arrivent comme ça. Et c'est super parce que c'est inattendu. Enfin, il y a aucun indice qui nous fait passer d'un plan actuel à un plan de souvenirs. Puisque le petit garçon évoque assez régulièrement une sœur qu'on ne voit que par le souvenir qu'il a et qui nous fait partager en fait. Enfin, c'est un film qui paraît, enfin moi je trouve, hein, qui est comme ça assez simple. Enfin en parlant, je me perçois que ça peut paraître compliqué, mais oui, qui est très simple quoi. Ouais. C'est la vie d'une mère et de son fils et voilà qui se passe pas forcément bien avec des problèmes d'appartement, de voisinage, de mari qui est parti et on ne sait pas s'il va revenir, de cette babysitter qui arrive. Voilà, enfin quelque chose d'assez. Moi ça m'a un petit peu rappelé. Tout est pardonné, en fait, dans cette espèce d'ambiance de vie de famille. Mais en fait, voilà, ça dépasse le sujet par la façon...
En fait, tous les enjeux du film, il y a une myriade d'enjeux du film. Enfin, déjà, le fait que lui, ça soit un cinéaste chinois qui filme à Paris, donc avec l'un des personnages principaux soit une babysitteuse...
Oui.
Je sais pas comment on dit, ça. Chinoise qui vient faire des études de cinéma à Paris, c'est dans une famille où la mère est fait du marionnettisme avec des Chinois, qui fait venir un Chinois pour parler de son travail de marionnettisme.
Oui, alors, il y a ça aussi.
Donc là déjà on est en train de parler de de la migration ou l'émigration, ouais, du rapport au cinéma, à la marionnette, à l'art de la représentation ou pas. Ouais. Comment on fait ? Donc il y a déjà le cinéma, la marionnette.
Il y a un autre échelon qui est la peinture.
Et donc qui arrive... la peinture et qui voilà, qui revient à se positionner. Après du coup on arrive aussi donc à la peinture, à la technique aussi, puisque du coup on voit beaucoup d'images de, donc elle est cinéaste, mais elle travaille avec des petites caméras DV, ouais, donc elle monte sur son ordinateur, elle explique comment elle fait le ballon rouge.
Ouais.
Comment ce ballon rouge se déplace et que ouais, nous on suit en fait qui sont les promenades du garçon qu'on découvre et en fait voilà. Et donc c'est cet enchevêtrement de possibles analyses sur chaque scène,
ah ouais,
est incroyable.
Non, en fait.
Et moi ce qui m'a aussi beaucoup impressionné c'est vraiment la mise en scène dans un appartement. Qui est quand même un appartement, j'allais dire, enfin sans péjoratif, mais bon, ouais, un petit appartement bobo parisien sur plusieurs étages, alors qui est complètement à l'arrache. Hein, c'est très mal rangé. Hein, c'est très mal.
C'est la maison du producteur du film.
Ah, en fait, écoute, une très belle. Merci Isabelle pour cette excellente anecdote. Et donc à plusieurs étages, dont des parties qu'on découvrira, ouais, jamais et certaines plus tard. On va pas vous raconter lesquelles. Et je pense qu'il y a bien un tiers du film qui se passe, c'est un plan qui panote et qui, ouais, en hauteur ou en façon horizontale ou verticale, et avec une construction en plusieurs étapes, avec l'enfant qui est en train de jouer à la console au premier plan, la femme qui parle avec un voisin chiant au deuxième plan, et puis la baby-sitter chinoise qui fait la bouffe au fond de la cuisine, et ça se déroule, et ça s'interconnecte, et machin, et elle rentre hystérique. Et du coup, et à chaque plan, il y a un enjeu presque différent, quoi. C'est que du coup, le petit gosse parle de ses souvenirs avec sa sœur, et elle est en train de s'engueuler avec son ancien mari au téléphone pour parler de ça, et la babysitteuse est en train de se demander quelle image elle va faire, et puis finalement, bah, faut sortir du jus de pomme pour le petit, donc ça rejoint le petit. Enfin, à chaque fois, ça s'imbrique, et en même temps, le film apparaît comme assez limpide.
Oui, oui,
la narration,
voit,
en fait,
le
scénario se déroule de façon assez limpide. C'est une très belle histoire qui est très bien racontée. Et à chaque fois, il y a 12 milliards d'enjeux qui se dégagent. Moi, une des choses qui m'a le plus frappé, c'est vraiment la représentation qui est possible à chaque fois. Il y a donc à chaque fois des reflets, des fenêtres, des écrans, des spectacles, l'envers du décor ou pas, et tout ça, ça donne un film à...
sur l'art et sur la vie.
Oui. Alors c'était une commande du musée d'Orsay, si c'est
oui,
ça,
oui,
du Quai d'Orsay.
Ils ont fait des commandes à différents cinéastes. Je sais pas s'ils seront satisfaits parce que la visite du musée d'Orsay occupe environ 3 minutes du film.
En
fait, c'est le commentaire d'un tableau.
Voilà, et donc du coup, qui repose quand même.
Avec aussi un petit ballon rouge.
Mais donc à chaque fois, je pense que. Pardon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux pas raconter la, la fin ?
Non, ne racontez pas la fin, après on n'aura plus le temps de parler de la rumeur en plus.
Ah ouais, mince.
Voilà, donc voilà. Donc
allez voir au théâtre Le voyage du ballon rouge.
S'il passe encore, d'ailleurs, on ne sait même pas s'il passe encore.
Bon, on va dire que ça passe encore, allez. On est là pour ça.
$400, personne ne dit mieux. $500. À vendre, mine d'or dans le désert, 2007, pour 2000 tonnes à extraire. Exploitation dérisoire, par employé, 10 grammes de pain plus, groupie à boire. À vendre, sans plus attendre, parcelle de chair, tout type d'organes et de viscères. Soit cœur, globe oculaire, tout boule, étiquetage, étiquetage mexicain. Provenance colombienne, contacté en semaine, heure, un père et fils, grande boucherie humaine. À vendre, viande folle pour institut psychiatrique, stock important, DMC périmé. Bonus, cervelle de veau, malade, fervide. Stockage rapide, appelé si intéressé. Propose virus, gangrène en fœtus, très actif dans l'eau de source plus. Cancer très rare, mélanine peau noire uniquement. Testé cliniquement, breveté, déposé. Cède, pour presque rien. Bâtiment délabré, clim naturel. Termite et cafard pour voisins. Clandestin sans papier, 4000 francs la parcelle. Promotion printemps, moins 20% sur nouveau réseau. Cabaret thaïlandais, privé et discret, grand choix d'autochtones. Jeune vierge et vieille cochonne. 7 jours, 7 nuits, hôtel, repas compris. Départ Genève, Bruxelles ou Paris. Parrainer un ami et gagner Ernest Saldi, le bonus fidélité.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages.
Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages.
Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages.
Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Urgent recherche, troupeau de sans-papiers, parlant peu français, sous arrêt d'expulsion. Taillable et jetable, jetable et taillable, pour chantier grand stade en construction.
À vendre, petit nécessaire de torture. Fais ses preuves dans interrogatoire musclé. Vendu plus pas terre, pochette nos murs. Bonne affaire, notice, contrôle technique, ok.
À vendre, usine dégrossie, Istanbul, Turquie. Montage, atelier, électroménager.
Plus
1200 bras, rapport salaire français, 1 sur 23.
À vendre, stock bébé, pour parents stériles. Provenance tiers-monde, volé à famille en exil. Certificat médical, choix conséquent. Garantie 2 ans, aucune facilité de paiement.
Société offshore, Luxembourg Nord propose gestion tout confort, transfert blanchiment argent sale, parfait idéal pour campagne électorale.
À vendre, uranium appauvri, prêt pour traitement, fourni avec plan bombe A, montant à débattre, premier prix 100 millions, remise 10% sur équipement de fonction.
Feuillette une par une, feuillette les pages.
Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages.
Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages.
Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages.
Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages.
Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages.
Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages.
Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages.
Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Yo. Ouais, on est là pour ça.
Sur Radio Pulsar.
C'est Yo. Ça, pour me parler de musique, de ciné et de peura. Vas-y, Niki, c'est à toi, péter le flow, ma grande.
Alors là, on vient d'entendre les annonces du carnage, les petites annonces du carnage, extrait du premier album de La Rumeur, L'ombre sur la mesure.
Mm-hmm. Et donc, c'est ça que tu écoutes dans programme.
Et oui, c'est ça que j'écoute en boucle. Un grand groupe, La Rumeur, donc, qui a fêté ses 10 ans d'existence l'année dernière. Derrière eux, il y a déjà 3 maxi, 3 albums, et dont le dernier, Du cœur à l'outrage, qui est sorti l'année dernière, l'été dernier. Alors, La Rumeur, c'est un groupe composé de 4 rappeurs, 2 DJ, basé sur Paris, mais tous issus de l'immigration et revendiqués comme tels. Et à ce titre, ce groupe se considère comme faisant du rap de fils d'immigrés, comme d'autres groupes de rap d'ailleurs. Et ça, ce qualificatif donné à leur rap, ça se justifie aussi par les thèmes qu'ils abordent. La colonisation, le pillage du tiers-monde. Alors, on a pu le voir aussi dans les petites annonces du carnage, l'immigration. Et un autre thème qui en découle, la situation dans les banlieues en France, hein, le discours sécuritaire et raciste, les bavures policières, etc. Et puis enfin, un autre grand thème abordé par La Rumeur, qui leur est cher, c'est leur positionnement par rapport à l'industrie du disque en général, et en dénonçant les travers, les dérives, et puis par rapport au rap français en particulier.
Alors ça veut dire qu'ils sont produits par une maison
Alors en fait, non, ils ont un label, ils ont créé leur propre label, La Rumeur Records. Mais les premiers albums, c'était EMI. Eh oui, voilà, mais maintenant...
Ça leur a pris la vie, quoi.
Voilà. Enfin non, d'ailleurs non, c'est même pas pour ça. Et donc, si on voulait définir La Rumeur en quelques mots, La Rumeur, on peut dire que c'est un groupe de rap indépendant, combatif, subversif. Et en ça, il s'inscrit à contre-courant par rapport au milieu du rap français, qui malheureusement, en grande partie, adapte souvent ses textes aux exigences des grands médias. Les textes de La Rumeur sont noirs, corrosifs, et ils se refusent à les édulcorer, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs, pour pouvoir être diffusés. Et Ekwe, l'un des rappeurs de La Rumeur, dit que le rap prend toutes ses lettres de noblesse hein, quand il est contestataire et subversif. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'évolue La Rumeur. Et c'est d'ailleurs pour garder leur indépendance qu'ils ont fondé leur propre label juste avant leur dernier album, Du cœur à l'outrage. Et dans la même logique, ils sélectionnent les médias auxquels ils s'adressent en se méfiant des plus gros, des gros organes de presse, de télé, etc. Et pourtant, ils sont toujours là depuis 10 ans grâce à leurs plus gros organes de promotion, justement, c'est les concerts et puis le bouche à oreille qui marche bien. Voilà. Et pour parler de leur univers musical, dans leur premier album, L'ombre sur la mesure, les musiques, les textes étaient très imagés, rappelant un peu l'ambiance des films noirs des années 50, des films d'Audiard, avec une tension qui est encore montée d'un cran pour le second album, Regain de tension. Et puis dans le dernier, là, celui qui est paru l'été dernier, Du cœur à l'outrage, ça s'est pas démenti et l'atmosphère rappelle une sorte de déambulation nocturne, pas très rassurante. La plume est acérée, l'ambiance est très électrique et il confirme avec cet album que c'est vraiment l'un des meilleurs groupes de rap français.
Waouh ! Mais qu'est-ce qui te plaît, toi, Nikki ?
Ah, tout ce que je viens de dire.
Mais en parlant du truc de ciné, j'adore, c'est que la Mourad, il est doctorant en cinéma, non ?
Non, c'est Amé.
C'est Amé.
Ouais. Amé qui est d'ailleurs en ce moment, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de concerts en ce moment. Il est parti aux États-Unis pour compléter son cursus universitaire cinéma. Et c'est lui qui fait nombreux clips de La Rumeur, justement. Ouais,
c'est ça. Qui réalise les clips.
Et qui réalise les clips de La Rumeur. Ouais. Et là, et d'ailleurs, il va réaliser également un documentaire sur La Rumeur.
Jamais si bien servi que par soi-même.
Ah bah oui.
Ouais, moi je pense que ça pose un problème de point de vue. Enfin,
oui, c'est vrai que les réalisateurs.
En tant que jeune réalisateur documentariste, enfin bref.
Ce qui les différencie aussi des autres rappeurs, c'est donc, comme on le vient de le dire, ils ont fait des études assez longues. Ils font encore des études.
Je sous-entends que tous les rappeurs sont complètement incultes et s'arrêtent.
Non, mais. On peut souligner que c'est quand même assez rare et ça leur permet de tenir un discours construit et argumenté, notamment par rapport aux banlieues. Un discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans nos médias, qui donne un véritable éclairage de l'intérieur, qui change par rapport au discours formaté qu'on entend. Et sur ce thème, je vais vous lire deux phrases issues d'un billet d'humeur écrit par Amé, dont on parlait, sous le titre « Insécurité sous la plume d'un barbare », un article publié dans un magazine qui accompagnait leur premier album. Alors, je vais vous lire ces deux phrases et vous allez me dire si ça vous choque, ce que je lis. Alors, la réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers, c'est avoir plus de chances de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliation policière régulière. Ça vous choque ?
Ouais, ah ouais,
pas plus que ça. Les rapports du ministère de l'Intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété. Voilà.
Il faudra faire des procès.
Voilà, ben oui. Et malheureusement, oui, ce qui pourtant ne paraît pas si choquant et si navrant que cela, eh bien en 2002, date à laquelle a été écrit ce texte, une plainte du ministère de l'Intérieur, et qui c'était le ministre de l'Intérieur à l'époque, en 2002, je vous le rappelle, Nicolas Sarkozy, a été déposée. Donc ils ont déposé une plainte pour diffamation envers la police nationale, à cause notamment de ces deux phrases, en tout trois, mais j'en cite deux. Et depuis, il y a eu deux relaxes, un procès en appel par le ministère de l'Intérieur, un procès qui a annulé la relaxe, et depuis le groupe fait son tour appel. Voilà. Et je tenais à en parler parce que c'est pas seulement un problème de liberté d'expression, comme ça a été le cas avec d'autres rappeurs comme Sniper par exemple, qui ont vite été relaxés. Là, il y a vraiment un acharnement parce que le groupe a pas voulu plaider seulement la liberté d'expression, mais a aussi voulu revendiquer et défendre ses propos en invitant au procès des historiens, un gardien de la paix, etc. Donc la décision qui sera rendue le 18 mars est importante pour savoir ce qu'on a le droit de dire en France ou pas.
Et en même temps, c'est assez fort de leur part d'arriver à ce qu'on parle de ce procès et qu'on se rende compte des
exactement.
Gens à qui on fait un procès, pourquoi on essaie de les faire taire, qu'est-ce qui dérange là-dedans,
surtout
combien ça coûte.
En plus, les historiens ont déjà témoigné en leur faveur. Quoi. C'est que les deux premières relaxes, c'était déjà avec l'aval des historiens, et des historiens assez importants, notamment des historiens de la police, qui sont reconnus par l'État et qui ont des diplômes d'État d'historien de la police, et qu'on dit que c'est aucunement problématique cette phrase, parce que c'est pas une diffamation, c'est une expression libre à leur manière d'un fait véridique, historique et établi par tous les historiens de la police.
Et que ces historiens ont déjà dit dans leur livre d'une autre manière.
Sauf que
là, c'est des rappeurs.
Et que ils ont de la chance d'être beaucoup plus entendus que certains bouquins d'historiens. Et que du coup, ils ont un peu peur que plus de gens entendent ça.
Et tout à l'heure, tu parlais d'Amé qui faisait un documentaire justement sur leur groupe. En fait, c'est notamment pour pouvoir parler de ce procès. C'est l'une des raisons pour lesquelles aussi ils sont allés dans les grands médias, ce qu'ils ne faisaient pas pour la promotion de leur disque. C'est vraiment pour dire, pour pas se faire croquer en catimini. Et parler de leur de ce qui se passe, voilà.
Faut pas mourir par sanctions économiques.
Ouais, parce que ça coûte du pognon.
Eh ben oui, ça coûte du pognon, 15 000 euros pour l'instant, c'est-à-dire un album, quoi.
Ouais, puis eux, ils n'ont pas une thune, c'est leur label, c'est leur machin, donc du coup...
Et ce qu'ils risquent là, c'est, je crois, 45 000 euros d'amende, et puis... voilà, donc... tuer économiquement le groupe. Pour finir, pour parler de leur actualité, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, notamment parce qu'Amé est à New York, qui prépare le procès, voilà. Et donc, il n'y a pas de date de concert, ni à Paris, ni dans la région. Donc, il faut se tenir, faut faire 500 km à l'est ou à l'ouest, ou se tenir au courant sur le site. Et puis, sinon, en attendant, vous pouvez acheter Du cœur à l'outrage, parce que c'est une vraie bombe. Voilà.
Ouais. Vas-y, Niki.
Et moi, je veux dire, je les ai vus en 1998 à Poitiers.
Waouh. Wow. Ouais. Non, Isabelle, tu nous dis, rétablis la vérité. Tu as fait venir la rumeur.
Non, dans une c'est pas moi, parce que avec seulement moi, je pense qu'ils seraient pas venus, puisque je les connaissais pas. Mais ouais, je t'ai
ouais c'est bon, vous avez pas la ramener.
Je faisais partie de Ralph Ron et on avait fait un truc sur la culture, l'antifascisme et le fascisme aussi. Et voilà, ils étaient venus et c'était plutôt chouette. Et moi qui n'y connaissais rien au rap, qui n'y connais pas beaucoup plus aujourd'hui, j'avais trouvé ça assez fantastique.
Je les avais vus une fois, c'était très drôle. Je les avais vus à la Fête de l'Humain à Paris. Et du coup, ils étaient arrivés sur scène. Ils avaient fait leur première partie en disant on va inviter une copine. Et cette copine, en l'occurrence, c'était Kazay, qui est maintenant devenue une chanteuse très reconnue. Et ils avaient fait un truc très drôle, c'est que bah nous, on n'a même pas besoin de prendre le bus, vous voyez les grandes barres de béton qui sont pas très loin, on les voit d'ici où on habite.
Voilà. C'est donc, mignon.
C'était assez
c'était
marrant.
Signé. C'était donc, en septembre dernier.
Non, c'était l'année encore d'avant.
Bon, les amis, on n'est pas là
aussi,
pour se raconter.
Ils sont venus à Poitiers aussi, il n'y a pas très longtemps.
Bon, mais tout ça pour récapituler de tout ce qu'on a parlé ce soir avant de laisser la parole à l'AFP et puis à l'indépendance.
On écoute une chanson, non? On a le temps?
Ouais, on a juste le temps. D'accord. Mais alors, on ne dit pas de quoi on a parlé, bon, tout le monde ira
voir. Si, la voyage du ballon rouge.
De la Housse-Ossienne.
La Housse-Ossienne.
Le théâtre, le frère Cohen, No Country for All Men, au blip, méchant cinéma, mais quand même qui dit passe des trucs qu'on ne voit pas ailleurs, donc c'est quand même bien.
D'accord.
Cinématique Orchestra, la reprise de Man with a Movie Camera, parce que je ne sais pas le dire en russe. Le nom du film de Dig Avertov de 1929 sur Ninja Tune.
Pas mal. Ensuite, O Brother, la BO.
La BO qui est sortie, on sait pas
et
où.
Monsieur Cueco.
Et, puis, et Ramon Aguilera Cueco et ses petits livres. Et puis La et puis, Rumeur.
La Rumeur, c'est de la balle.
Qu'on va réécouter tout de suite avant de laisser
avec
la
un chien dans la tête.
Avec un chien dans la tête.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt, c'est on est là pour ça sur Radio Pulsar.
La rime ne soigne pas, les miennes ont des cernes. Elles traînent en fumant à l'heure où les bars ferment. Vide leurs bouteilles, pillent sur mon sommeil. Vieille peau des caddies que presque rien n'égaye. Je leur vois mes plus fiers débuts d'ulcères et des colliers d'heures mortes à mon calendrier lunaire. Des insomnies belles comme des fonds de cratères si tu préfères. Coléoptère à fleur de nerf, elle rampe à bois, casse du verre au creux de mon crâne dans un coin sans lumière. Tout Nile boue et tâche d'y prendre goût. Cuite et recuite à chaque nuit que Paris écrit, elles font le mur et courent seules dehors. Boulevard, avenue, rue, impasse des carnivores. Vadrouille sans but en attendant l'aurore. Leur solitude bavée dans le cul d'une ville qui dort. En vase clos, paradis des corbeaux, les matricules poussent comme une seconde. Me disent-elles coco en desserrant les crocs. La mine un peu défaite sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête. Ce chien dans ma tête. La mine un peu défaite sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête. Ce chien dans ma tête. Le premier homme hagard que tu croiseras soir et qui dira d'aller te faire voir, c'est moi. La bonne vieille couleuvre qui essaie de faire peau neuve en remontant le fleuve, c'est moi. Et encore moi là-bas, du mauvais côté nocturne, truqué comme une urne, plein comme mes burnes. King Kong accroché à la note Saturne. Prodigieuse compon à la discrétion des néons. Plus les lampes torches m'encombrent et plus j'épouse l'ombre. En quête de quelques mètres carrés où je pourrais écrire en paix, quelques mètres carrés où je pourrais me débarrasser de mes écrans tassés, de mes erreurs passées, de mes fautes ressassées et balancer le sac comme on jette un cadavre au milieu du lac. La mine un peu défaite
sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête. Et je tête la belle étoile à pleine main, comme une belle paire de seins. Avec l'espoir qu'au-delà du charabia, la rime soignera. La mine un peu défaite, sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête, ce chien dans ma tête. La mine un peu défaite, sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête, ce chien dans ma tête.
C'était On est là pour ça, l'indépendance dans quelques secondes. Ah ben, c'est les infos d'abord ? Ben oui, c'est les infos.
Ouais. Tu sais.
Si, c'est le message.